Pour commencer, quelques annotations anthropologiques sur le sujet, sur la question de l'historicité, de l'être humain dans son histoire, l'attente, le devenir et l'éternité de l'homme. Je voudrais commencer par un fait d'expérience qui nous est commun à tous. On attend toujours quelque chose. Nous sommes des êtres profondément marqués par l'attente. On attend, en ce moment, qu'est-ce qu'on attend? Les résultats du bac pour les jeunes. On attend la pause de l'USEC. On attend les vacances qui arrivent, peut-être la retraite, etc., etc. Nous sommes des êtres profondément structurés par l'attente de quelque chose. Une attente qu'on peut exprimer, qu'on peut identifier, mais bien souvent des attentes qu'on ne peut pas identifier. Et si la condition humaine est marquée par l'attente, ça veut dire que la personne humaine se construit dans un devenir à travers des réalisations humaines qui pour autant n'épuisent jamais cette quête de réalisation de la personne humaine. Et vous le savez très bien, par vos multiples expériences, nous pouvons nous réaliser, comme on dit, nous accomplir, et il est bon que cela soit le cas, et en même temps, aucune des réalisations humaines, même si on vous envoyait sur la Lune, n'épuise, et heureusement d'ailleurs, votre quête d'accomplissement. Il y a toujours une quête à réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses, en négatif et en positif. En négatif, ça veut dire que l'homme vit sous le signe d'une insatisfaction permanente. Il sait qu'il n'a jamais complètement réalisé les promesses de vie dont il est porteur. Et ceci, d'ailleurs, quels que puissent être les degrés de réussite ou d'échec d'une vie. En positif, ça veut dire que l'homme croit que les choses de la vie, du monde, de sa vie personnelle, peuvent toujours aller mieux, qu'il y a des réalisations possibles, que le présent n'a rien d'un statu quo, qu'un changement est toujours possible. Voilà une donnée fondamentale que nous pouvons tous partager, la condition d'attente et de devenir de la personne humaine. Alors précisément, un petit mot sur le devenir. Deuxième partie. Si ce qui précède est vrai, la personne humaine est structurée fondamentalement de manière dynamique, suivant un devenir. C'est une condition historique. L'histoire, c'est une réalité qui advient, qui devient, qui a un passé, un présent, un futur. C'est la condition humaine. Donc la condition, bien plus que la condition d'ailleurs, la constitution de l'être humain est intrinsèquement liée au flux de l'histoire sans s'y réduire, au niveau personnel comme au niveau collectif. Il n'est pas possible de comprendre l'être humain en dehors de cette vision dynamique, évolutive, prospective. L'homme est par essence un être devenir parce qu'il est par essence un être perfectible. C'est pourquoi d'ailleurs les définitions abstraites de l'être humain sont toujours insatisfaisantes. Si vous dites l'être humain par exemple est un animal rationnel, pour prendre une définition classique, on a l'impression qu'il y a quelque chose de l'essentiel dans ces approches abstraites de la personne humaine qui manque. Si l'être humain est en devenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire fait la personne humaine et la collectivité. Nous sommes le fruit d'une histoire. Donc personne ne tombe du ciel ou n'est qui il est une fois pour toutes. Nous sommes le résultat d'un long processus. Donc l'histoire fait l'homme, mais l'inverse est aussi vrai. L'homme fait l'histoire. Nous construisons notre humanité personnelle et collective. Il y va de notre liberté, mais ce qu'il faut remarquer surtout, c'est que ceci n'est pas possible sans cela. Je veux dire par là que si nous sommes le fruit de conditions, de conditionnement historique, nous ne construisons pas moins notre histoire personnelle et collective. Si le premier aspect est un déterminisme, le second aspect est un acte de liberté, il faut voir que l'un n'est pas possible sans l'autre. Il n'y a pas de déterminisme sans liberté, ni de liberté sans déterminisme. Un exemple très concret, l'homme a fait l'USEC, mais l'USEC a fait l'homme. L'homme a fait l'USEC parce qu'il y a eu, il y a 10 ans, un ensemble de conditions qui ont fait que cette université d'été s'est créée. L'homme a fait l'USEC, mais l'USEC a fait l'homme, puisque l'USEC a vécu son chemin et elle a peut-être pas encore complètement changé le monde. On ne désespère pas, mais à son petit niveau, l'USEC a changé un petit peu les choses. Ça fait que la condition humaine a un petit peu changé, au moins dans notre propre rayon d'action. Voilà pour ce qui est du devenir. Et le troisième point que je voudrais souligner ici, ce que j'ai appelé l'éternité de l'homme, évidemment dans la foi chrétienne, perspective dans laquelle je me situe, nous confessons que l'être humain plonge ses racines dans le mystère de Dieu et qu'il est fait pour ce mystère de Dieu, et par conséquent, pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu, il porte en lui la marque de l'éternité, il est fait pour l'éternité. Mais s'il est fait pour l'éternité, ça ne veut pas dire que la condition historique dans laquelle il se trouve, en tant que telle, n'est que passagère. Il y a quelque chose, bien sûr, qui n'est que provisoire dans la condition historique, mais il y a quelque chose touchant précisément à ce que j'ai appelé la condition dynamique, évolutive de la personne humaine, qui appartient à la constitution même de la personne humaine et de la collectivité humaine. Autrement dit, il y a quelque chose du devenir qui passe dans l'éternité. Alors, c'est très difficile pour nous de penser cela, parce qu'on ne pense souvent le devenir qu'à partir de la condition historique passagère. Hein ? Mais il faut affirmer que si l'éternité marque bien la fin du parcours historique de l'être humain et le commencement d'une autre condition humaine, cette étape, enfin, ce terminus, ne représente pas pour autant la fin de l'homme en tant qu'être en devenir. Il y a comme un devenir permanent qui appartient à la condition même d'éternité de la personne humaine. Alors, à savoir de quoi il retourne, ça sera bien difficile, on verra quand on y sera. Mais c'est très difficile à penser pour nous, c'est plus difficile à penser les tourments de l'enfer qu'à penser la joie de l'éternité. Je ne sais pas pourquoi, si vous regardez l'histoire de la tradition picturale et de la tradition artistique occidentale, c'est impressionnant de voir comment on s'est régalé sur les représentations de l'enfer, mais comme finalement nos représentations de l'éternité sont bien, bien piètres. Alors je rapporte souvent ce mot d'une petite du catéchisme à qui on lui parlait de l'éternité, qui n'avait pas du tout envie d'aller à l'éternité parce qu'elle trouvait ça profondément ennuyeux. Et elle disait, vous savez, moi j'ai pas envie d'être assis sur un nuage en train de chanter des Alléluia tout le temps. Et elle avait bien raison. Comme disait Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout à la fin. Donc, il faut pouvoir introduire dans l'idée d'éternité de l'homme, c'est une dimension profondément dynamique, profondément, d'émerveillement permanent, délestée de ce que cette perception a de uniquement historique. J'approfondis pas le sujet, mais voilà de quoi il s'agit. Le deuxième point maintenant, la deuxième partie que je vais développer, c'est l'approche historico-politique du sujet. En 3 points. Alors, un petit mot sur le tournant du XIXe siècle où nous avons connu l'avènement des philosophies de l'histoire qui ont profondément marqué la pensée romantique et contemporaine. Hegel, Marx, on va pas s'étendre là-dessus. De quoi il retourne en 2 mots ? C'est-à-dire que l'homme est artisan de son histoire et il lui appartient de faire en sorte que cette histoire puisse arriver à son accomplissement, moyennant la mise en œuvre de mouvements de l'esprit adaptés et de politiques adéquates. Alors, cette vision, qui a profondément marqué la pensée humaine et politique de notre temps, repose sur un présupposé, évidemment, que ce monde est en marche vers un accomplissement définitif, que cette histoire a un sens, ce qui n'est pas évident, qu'il existe un processus intrinsèque à l'histoire qui conduit celle-ci vers un but. En réalité, cette perception vient tout droit de la tradition judéo-chrétienne, qui est une perception profondément ancrée dans une vision historique de la création, du cosmos, de l'être humain, de la famille humaine. Mais bien sûr, c'est ici une idée complètement sécularisée, et je dirai un peu plus loin quelles en sont les différences. Sans vouloir entrer dans les détails, vous avez en gros, dans l'histoire de la pensée, trois grandes formes de vision de l'histoire des hommes. Vous avez une vision qu'on appelle émanatiste, de l'émanation, qui correspond un petit peu à notre vision du Big Bang. Et vous avez quelque chose à l'origine dans lequel tout est inclus et qui est potentiellement va pouvoir se déployer dans l'histoire. C'est une vision de l'émanation. Vous avez une vision qui est une vision de dégradation. C'est-à-dire, il y a un principe qui est pur, et puis au fur et à mesure que l'histoire avance et que ça se déroule, il y a une dégradation par rapport à cette origine première. Oui, c'est une vision en particulier gnostique, qui par exemple dévaluera le corps par rapport à l'âme, etc. Puis vous avez une vision circulaire, dans laquelle on retrouve le mythe de l'éternel retour, qui en particulier sont très prégnantes dans les philosophies asiatiques, les sagesses asiatiques. La pensée biblique et chrétienne, d'une manière ou d'une autre, reprend ces trois visions, mais en leur donnant une vision linéaire. Je ne peux pas trop dire ça, parce que on a un peu trop opposé la vision circulaire à la vision linéaire. Vous retrouvez le schéma de l'émanation, de la dégradation, et le schéma circulaire dans la tradition biblique et chrétienne. Mais pas du tout à la façon dont ces schémas sont développés ailleurs. Parce qu'il y a en effet une progression vers un accomplissement, mais en même temps, il y a la dégradation, par exemple, du péché, etc. Alors, dans cette vision historique dans laquelle nous avons été profondément marqués, il y a deux excès opposés, s'agissant du rapport que l'homme entretient avec son histoire, cette histoire qui doit avancer vers un accomplissement. Et Lévinas résume ceci en deux dimensions. Vous avez une dimension de passivité ou d'impatience à l'égard desquelles il faut prendre ses distances. La passivité consisterait à attendre que le mieux arrive sans œuvrer personnellement et collectivement à cet accomplissement. Et l'impatience consisterait à l'opposer, à faire advenir coûte que coûte cet accomplissement, quel qu'en soit le prix humain à payer pour cela. Et nous savons très bien que les grandes idéologies du XXe siècle ont été très marquées par cela, et on sait les drames que ça a pu engendrer. Et donc, dans la perspective chrétienne, si nous sommes bien convaincus que l'homme doit progresser et que cette histoire doit cheminer vers son accomplissement, on sait très bien que l'homme ne se départit pas du mal comme ça, et que d'une certaine manière il progresse autant que le bien. C'est ce que disait Pascal, je ne l'ai pas textuellement, mais de mémoire, il disait: on nous reproche d'être trop pessimiste et trop optimiste. Pessimiste parce qu'on sait que l'homme est marqué par le péché et que sans la grâce de Dieu il ne peut pas grand chose. Et trop optimiste parce qu'on est convaincu qu'il est fait pour le salut éternel, c'est-à-dire qu'il est fait pour partager la vie de Dieu. Il faut toujours relire Pascal, surtout pour notre époque, ça nous parle beaucoup. Alors l'homme peut faire que ça aille mieux, mais il ne peut pas éradiquer le mal par lui-même. Et ce qui est vrai au niveau historique, au niveau collectif, est vrai pour chacun de nous. Hein, je crois qu'il ne faut pas être grand clerc, ni grand laïc, pour se dire qu'on peut faire que ça aille mieux, mais que ce n'est pas pour autant que nous serons dans le meilleur des mondes. Et d'ailleurs, il est très bon de se le dire, parce que souvent l'homme engendre le pire quand il veut faire advenir le meilleur des mondes. C'est comme ça qu'on fait des dictatures. Il n'y a rien de pire que ça. Hitler, il voulait une société, un millénarisme, un millénarisme parfait, pour une race donnée. Marx voulait aussi une société sans classe, mais tout ça est bien sûr. Mais voilà, faire advenir le meilleur peut engendrer le pire. Le meilleur est parfois l'ennemi du bien, dit-on. Alors, il faut quand même souligner cet aspect. L'accomplissement auquel nous sommes appelés ne peut advenir sans qu'il y ait un saut qualitatif radical qui ne peut pas venir de nous, qui vient du don de Dieu. Dieu seul peut faire que l'homme marqué par le péché, par le mauvais, par les puissances de mort, Dieu seul peut faire que, moyennant un saut qualitatif radical, ce monde, la personne humaine puisse arriver à son accomplissement bienheureux. Donc, c'est une expérience de grâce. Mais attention, il faut bien tenir l'équilibre, ceci n'exonère pas l'homme de sa responsabilité, bien au contraire. Parce que c'est à lui de se disposer à cette vie de grâce. Il y a à la fois continuité et rupture à l'égard de cette perspective. Troisième point, l'accomplissement au présent. Dans la pensée chrétienne, alors ça c'est vraiment propre à la pensée chrétienne, l'accomplissement, il n'est pas simplement à la fin de l'histoire. Il est au-delà de l'histoire. Et pour être au-delà, ce n'est pas un après. Il peut être présent. Il peut nous rejoindre maintenant. Christ est ressuscité. Tout est accompli. Oui, tout est accompli, mais le temps est accompli, mais il n'est pas achevé. Pas comment dire. Il y a une perception du rapport au temps spécifique à la dimension chrétienne qu'il est bien difficile d'exprimer. Il y a donc une présence, un accomplissement qui peut nous faire cheminer vers l'éternité, mais qui déjà nous rejoint. Il y a une transcendance du royaume de Dieu dans l'immanence même de l'histoire. Mais en même temps, c'est une irruption qui n'est pas maîtrisable. Nous n'avons pas la même mise là-dessus. Et heureusement d'ailleurs. C'est-à-dire on ne peut pas... C'est de l'ordre de la gratuité du don. Par définition, c'est le sens même du mot de grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la perspective chrétienne, le présent ne s'écoule pas de manière inéluctable vers un avenir programmé. Il y a des sauts qualitatifs qui sont possibles, pas plus qu'il ne saurait se déduire totalement du passé. Il y a, dans la condition humaine, dans nos vies, un coefficient de nouveauté radicale toujours possible, qui n'advient que si l'homme sait conjuguer sa responsabilité incontournable quant à la marche de l'histoire avec ce qu'on appelle l'accueil du royaume de Dieu. Donc il s'agit d'être ni passif, ni impatient, ni candide, ni fataliste, mais on est à la croisée des chemins de notre responsabilité historique, personnelle, collective, et de notre disponibilité au don du royaume de Dieu. Ce dont je vais parler maintenant, c'est précisément le royaume de Dieu en quatre points. Alors qu'est-ce que ça veut dire le royaume de Dieu? Pourquoi je parle du royaume de Dieu? Puisque, en effet, c'est au cœur de notre sujet, puisque c'est ce vers quoi nous cheminons. L'expression « royaume de Dieu » exprime la souveraineté de Dieu sur sa création. Alors, au seuil du Nouveau Testament, la longue histoire du thème du royaume développée dans la Bible depuis l'époque royale nous conduit à cette idée que Dieu seul peut instaurer définitivement son règne, mais que celui-ci ne peut aboutir si l'homme ne répond pas à l'invitation et aux exigences de Dieu. Avec Jésus, c'est le royaume de Dieu en personne qui se rend présent. Ce thème du royaume, relisez les évangiles, est au cœur de sa prédication, de ses gestes sauveurs, de la proclamation des béatitudes, de l'enseignement en parabole, de la prière du Notre Père, que ton règne vienne, etc. etc. C'est très prégnant dans les évangiles, le thème du royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu, est donc présent, mais sa présence est paradoxale. Présence paradoxale, car tout comme l'itinéraire de Jésus est paradoxal, la venue du royaume de Dieu ne l'est pas moins. Il est en train d'advenir, et pourtant il est caché. Il agit au cœur du monde, et pourtant les puissances contraires semblent l'emporter. Il se traduit déjà dans la réalité mondaine, et pourtant il n'est pas de ce monde. Il est vainqueur, et il semble être vaincu. Il est déjà bien présent, et pourtant il manque cruellement à notre humanité, à notre histoire présente. Voyez, le royaume de Dieu, c'est une réalité mystérieuse que l'on peut mettre en œuvre concrètement, mais qui n'en échappe pas moins à toute domination humaine et même à nos seules entreprises humaines. Il y a donc une présence paradoxale. Pour essayer d'entrer un peu plus dans le thème du royaume de Dieu, il faut parler de la justice, la notion de justice. C'est le thème central associé au royaume. C'est celui de la justice. Le royaume de Dieu est présent si l'homme instaure la justice. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce que j'entends par justice? En deux mots, sans développer, parce que c'est un thème comme la paix, c'est les deux thèmes qui sont au cœur de la prédication de l'Évangile. C'est l'établissement d'une relation juste avec Dieu et avec les autres. À cet égard, le critère ultime et décisif de la présence du royaume est à chercher dans la manière de se situer par rapport au prochain, et très particulièrement par rapport au plus nécessiteux, lequel est soumis à l'injustice de plus fort que lui. L'injonction de l'Évangile de s'occuper des plus nécessiteux, c'est pas d'abord pour être gentil avec eux, c'est une exigence de justice. C'est fondamentalement une exigence de justice. Le thème du royaume de Dieu est fondamentalement d'ordre social et politique. Il ne relève pas d'abord d'une spiritualité ou d'une sagesse individuelle. Et la grande difficulté par rapport à cette vision, si vous voulez, c'est qu'on ne mesure pas l'enjeu de cette affaire-là. Vous voyez, je vous renvoie à Matthieu 25, vous savez, qui est sur la parabole du royaume de Dieu, du jugement dernier. Quel est le critère qui fait qu'on entre dans le royaume de Dieu? Chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et quel est le problème? Le problème, c'est que personne ne s'était rendu compte que c'était aussi important. Ah bon? Quand est-ce que tu étais malade, pauvre, nu, etc. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a une disproportion en général entre le degré de culpabilité et la gravité du péché. Je m'explique. Pas toujours. Je pense que si vous avez assassiné quelqu'un que vous avez aimé, vous pouvez porter une culpabilité toute votre vie, et évidemment c'est un acte grave. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en sortir. Mais vous savez, on sait d'expérience que, surtout après une longue histoire janséniste, on peut porter une lourde culpabilité souvent sur des peccadilles, et alors ne pas avoir de culpabilité du tout, précisément sur l'omission, qui est le plus grave péché, c'est-à-dire le prochain. Ah bon? Tiens, tu étais malade, tu étais nu, quand, je ne me suis même pas rendu compte. Évidemment, comment se sentir coupable de quelque chose qu'on omet, dont on n'a même pas conscience? C'est une redoutable question. Redoutable question. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes sommés d'entrer dans le mystère du Christ pour que nous soyons un peu mis en éveil sur l'exigence de justice. Qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu ou qui nous en fait sortir? Je crois que c'est quelque chose de radical au sens de racine. Donc le thème du royaume de Dieu, c'est pas un thème qui est comme ça, c'est un thème bucolique ou que sais-je. C'est vraiment un thème décisif. La justice. Alors, les moyens de l'Évangile. Alors, être solidaire du nécessiteux, je dis nécessiteux pour employer un terme très générique. Je préfère pas dire pauvre parce qu'il est trop ambigu. Miséreux, c'est trop sélectif. Nécessiteux, ça me paraît plus général. Être solidaire du nécessiteux, changer le monde à partir de lui, c'est l'attitude même de celui qui œuvre à l'avènement du royaume de Dieu. C'est ainsi seulement que peut surgir le royaume. Non pas avec les moyens des puissants, mais avec les moyens des pauvres et des plus vulnérables. C'est bien ce que suggèrent d'ailleurs les paraboles dites du royaume. La petite graine, le levain dans la pâte, le trésor caché, la perle fine, toutes choses que la puissance de ce monde ne saurait prendre en considération, mais qui sont les leviers mêmes de l'avènement du royaume de Dieu. Donc, faire advenir le royaume de Dieu, autrement dit, rendre déjà présent l'avenir de Dieu dans l'histoire des hommes, comme je disais, ce n'est pas une vision utopiste, romantique. Il s'agit de rejoindre ce que l'histoire exclut, ce que l'histoire humilie, ce que l'histoire rejette. Quand je dis l'histoire, c'est pas l'histoire, c'est notre histoire, c'est notre espace. Et de rencontrer là l'œuvre radicalement transformatrice du royaume de Dieu. Et bien sûr, nous sommes ici au cœur de la confession de foi chrétienne. Le Christ, c'est ça, le Christ, c'est l'humilié. Le Christ, c'est l'humilié, glorifié. C'est le crucifié, ressuscité. C'est celui qui s'est identifié à tous les miséreux, les nécessiteux, les pauvres, les, je sais pas comment dire, de la terre. Il est là, caché en tout drame de l'histoire et de la vie des hommes. Il n'est jamais aussi présent que là. Il est là en personne. C'est lui que nous rencontrons. Et quand on en fait un petit peu l'expérience, on commence à se culpabiliser un petit peu, c'est pas plus mal. Alors, il faut pas se culpabiliser pour se culpabiliser, mais précisément pour se repentir et pour demander que advienne son royaume dans nos actes, dans nos gestes, dans nos façons de vivre. Voilà. Je vais passer à la troisième partie. Il en reste deux. Temps et éternité. Alors là, il y a plusieurs figures temporelles de l'éternité dans l'histoire de la pensée humaine. Pour ce qui concerne la tradition biblique, à mon avis, la meilleure figure, c'est celle du commencement. Dieu ne cesse de commencer quelque chose de neuf et de se repentir. C'est lui qui se repent de ce qui s'est passé avant. Il dit « Non, je me repens, j'ai pas réussi mon affaire, je croyais que ça allait marcher, mais ça n'a pas marché parce que finalement on a fait capoter, si je puis dire, son désir d'accomplissement pour son humanité et pour sa création. » Alors une nouveauté, Dieu, relisez l'histoire de la Bible, hein, Dieu ne cesse de recommencer, mais pas recommencer à l'identique, il refait toujours autrement. Parce qu'il ne peut pas ne pas prendre en compte les déboires auxquels il s'est heurté. Et donc il y a toujours une nouveauté inédite dans les commencements successifs qui sont des alliances nouvelles que Dieu ne cesse d'inventer, si je puis dire, pour nous sortir du bourbier. Alors voilà, la meilleure figure, c'est celle-là. Et vous savez, dans la vie humaine, on s'y reconnaît parce que les figures de commencement sont les plus stimulantes pour nous. Je vois, quand vous attendez la vie, par exemple, le petit qui arrive, ça touche les parents, mais j'ai l'impression que ça touche encore plus les grands-parents, souvent, parce que peut-être parce qu'ils ont justement mesure que le temps passe, ou je sais pas, qu'il y a une nouveauté radicale pour laquelle nous sommes faits. Et je viendrai là-dessus tout à l'heure, il faut du temps pour entrer dans ce mystère de la nouveauté. Donc Dieu ne cesse de vouloir faire du neuf, mais vraiment un neuf radical qui est inconcevable. Alors ça, c'est très embêtant pour nous, parce qu'on veut bien la nouveauté, mais on ne veut pas être trop exposé à une nouveauté inconcevable. Or, dans la perspective chrétienne et biblique, la nouveauté est inconcevable, elle appartient à sa définition même. L'inconnu de la nouveauté, c'est redoutable. On veut bien du nouveau si on sait un peu ce qui arrive. Bon, on attend le printemps, on n'est pas l'été, on sait que ça va arriver, on est heureux que ça arrive, c'est un commencement qui est un recommencement, ça ne nous déroute pas tant que ça. Mais justement, sommes-nous prêts à nous exposer à une nouveauté si radicale qu'elle déjoue toutes nos attentes? Et il faut bien prendre la mesure de ça, parce que vous savez, dans la perspective de foi, ce qui va arriver, c'est pas ce qu'on attend. Ce que nous attendons, c'est pas ce qui arrivera. Il y a une disproportion entre ce que nous attendons et ce qui va advenir. Dieu répond sans correspondre à nos attentes. Il répond sans correspondre. Nos attentes sont bien trop humaines, si je puis dire, et bien trop limitées. Alors Dieu, oui, répondra à toutes nos attentes, mais autrement que nous le pensons, et heureusement. Et ça, c'est l'espérance chrétienne. Autrement dit, l'espérance chrétienne suppose une très grande liberté à l'égard de toute forme d'attente humaine. Et on sait d'ailleurs que ces attentes, à vue humaine, sont profondément déçues, bien souvent. Profondément déçues. Qui peut dire que Dieu répond à nos attentes quand on voit les drames de ce monde? Est-ce qu'il a répondu? Et oui, bien sûr, mais pas comme nous le voyons. D'ailleurs, c'est ce que dit l'Évangile. Finalement, l'attitude qui nous est demandée, c'est d'être en éveil. Veillez, car vous ne savez pas. Veillez, car vous ne savez pas. Et ce « ne savez pas » est aussi important que le « veillez ». Veillez, vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais vous ne savez pas le mode de cette nouveauté de Dieu. Elle dépasse tellement vos propres perspectives humaines. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est la vie à laquelle nous sommes appelés. Veillez, car vous ne savez pas. Et je vais embrayer sur la notion d'immortalité et d'éternité. Alors, il faut bien distinguer les deux, parce que l'immortalité, c'est pas l'éternité. Et je vais même vous dire que c'est le contraire, que c'est presque l'opposé. Vous connaissez cette phrase de l'hymne, de l'épître aux Colossiens, « En lui habite corporellement la plénitude de la divinité ». Vous pouvez transposer cette phrase et dire « En lui habite temporellement la plénitude de l'éternité ». Autrement dit, l'éternité de Dieu, je rejoins ce que je disais précédemment, nous rejoint temporellement. D'ailleurs, il y a un lien entre le temps et le corps. Le meilleur marqueur du temps, c'est le corps. Ça, il n'y a pas de souci. En lui habite corporellement la plénitude, temporellement la plénitude de l'éternité. L'immortalité, qu'est-ce que c'est l'immortalité? L'immortalité nie la mort. C'est ça le sens même du mot immortalité. L'immortalité nie la mort. Elle nie la mort et elle ne change pas la vie. L'immortalité, finalement, c'est cette vie mortelle comme tendant à l'infini. C'est une sorte d'extrapolation à l'infini de la condition humaine telle que nous la connaissons, qui est une condition mortelle. C'est la vie mortelle. L'éternité, c'est le contraire. L'éternité traverse la mort et fait entrer dans une vie nouvelle. Ça, c'est la foi chrétienne. Elle met à mort la mort pour que nous entrions dans la vie vivante, disait Saint Bernard. La vie vivante. Car nous sommes en vie, mais notre vie est marquée pas simplement à la fin de la vie, mais de part en part, par la mort. Au fond, l'immortalité, c'est un fantasme de toute puissance. C'est le fantasme même de notre temps. Fantasme de toute puissance. C'est une tentation diabolique d'après la Genèse. Mais non, vous ne mourrez pas. Vous serez comme des dieux. C'est ça la tentation que donne le diable à Adam et Ève. Non, non, Dieu vous a dit ça, mais non, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. Voilà. Alors aujourd'hui, on est dans ce fantasme. Et quand vous parlez enfin, j'espère que les intervenants successifs parleront de ça, mais la conception de l'immortalité aujourd'hui, c'est celle-là. Enfin, et d'ailleurs, l'éternité, on n'en parle même pas, puisque on fait la confusion entre l'immortalité et l'éternité. Donc c'est diabolique. Enfin, je crois que ça, on peut le dire. Non, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. Voilà, être comme des dieux. Mais précisément, la personne humaine peut être comme Dieu si elle reste humaine. Il n'y a rien de pire que la négation de la condition humaine pour s'éloigner de Dieu, alors qu'on pense qu'il faut en sortir. Non, précisément, c'est la condition humaine avec ses limites, ses pauvretés, qui rend possible l'accès à la vie même de Dieu, à la remise de notre vie entre les mains de Dieu, dans une relation de confiance. Car pour revenir à la Genèse, c'est ça au fond. C'est la question, c'est Dieu est un rival. Dieu, il veut pas partager ses prérogatives. Vous serez comme des dieux si vous m'écoutez. C'est le contraire même de la foi biblique et chrétienne. La foi, confiance. Oui. Mettez votre vie en absolue confiance entre les mains de Dieu. Et de ce point de vue, le temps que j'ai relié au corps, que j'ai relié à l'histoire, rend possible l'accès à l'éternité. L'éternité étant le partage de la vie même de Dieu. C'est l'expérience même du temps qui nous fait entrer dans la vie même de Dieu. Le temps d'entrer inconditionnellement dans la vie même de Dieu, dans la volonté de Dieu. Voilà. Il faut se réconcilier avec le temps. Il est bon de vieillir, et c'est pas que pour le vin, c'est pour l'homme. Il est bon que le temps passe. Il faut le dire, parce que nous sommes quand même dans le mythe de l'éternelle jeunesse. Enfin, il faut se faire vite dès qu'il y a une ride, enfin, c'est le drame, etc. Alors que c'est si beau de voir la marque du temps, quand elle est vécue précisément comme ce lieu de l'espace où Dieu peut nous retrouver précisément parce qu'on s'est ouvert à lui. Voilà, donc vous voyez la différence entre immortalité et éternité. Christ et le temps. Précisément, qu'est-ce qui qualifie le temps du Christ, le Verbe de Dieu fait chair ? C'est sa disponibilité absolue à la volonté de Dieu, à la volonté du Père. À de nombreuses reprises, les évangiles insistent sur cette attitude du Fils dans sa relation au Père. Le Christ ne vit ce temps humain que comme l'espace d'acquiescement et d'abandon à la volonté du Père, ce qui est appelé par ailleurs obéissance, ce qu'on peut appeler détachement, ce qu'on peut appeler, les jésuites appellent ça indifférence. Enfin, si j'ai bien compris, notez bien que je fais référence à la spiritualité jésuite. Béni sois-tu Seigneur, la grâce agit. Donc cette disponibilité du Fils laisse en toute chose et en tout temps au Père le soin de conduire son histoire. Pour le Fils, chaque moment du temps, c'est le moment où il se décide pour son Père. C'est une réponse parfaite à sa volonté. Le dessein du Père est le sien. Ça veut dire d'ailleurs, entre autres, qu'il n'anticipe pas ce dessein. L'heure du Père, c'est l'heure. C'est pas l'heure, c'est pas encore l'heure. Il le vit comme le Père entend le mener à bien. Ça veut dire que cette manière de se rapporter au temps pour le Fils, c'est que le reflet temporel de son être éternel, tel qu'il se reçoit du Père. Et ce temps est bien sûr entièrement déterminé par sa mission salvatrice chez les hommes, de l'incarnation à la croix à la résurrection. Ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que cette disposition est infiniment joyeuse, infiniment libératrice. Alors que nous, on pense souvent le contraire quand on parle de liberté. On pense que la liberté, c'est un peu le contraire de l'obéissance ou du détachement. Non, c'est précisément ça. Être dans la volonté du Père. Quand vous dites que ta volonté soit faite, il faudrait que ça soit une sorte de joie profonde. De joie profonde dans votre vie. Être dans la volonté du Père. Parce que rien ne peut être aussi heureux pour nous que cela, quoi qu'il en soit de nos réalités de vie. Vous avez une figure qui peut vous guider là-dessus, c'est la figure de Marie. Regardez l'itinéraire de Marie, qui est contredit en permanence dans ses planifications humaines. Il n'y a rien de ce qu'elle aurait pu planifier qui se passe comme elle l'aurait voulu. Elle est livrée à l'Esprit-Saint, et c'est la source de sa joie, en tout moment. Depuis l'Annonciation, à Cana, évidemment au cheminement de son fils, à la croix et à la résurrection. Elle est dans cette... C'est une attitude mariale. Elle est dans cette disposition d'accueil de la volonté de Dieu sur sa vie. Et c'est ce qui fait sa joie, comblée de grâce. Réjouis-toi. Donc c'est Dieu qui est le maître des horloges, et pas simplement le président de la République. C'est lui qui est le maître du temps, et qu'il est bon qu'il en soit ainsi. Ceci nous mène à la conversion, et je vais terminer par là, ça va, je suis dans le timing. Vous savez, il y a un passage de l'Évangile qui est très marquant. On dit, montre-nous des signes dans le ciel. Hein, on veut savoir à quoi s'en tenir, on veut voir où est-ce qu'on va. Ça, c'est exactement le sujet. Montre-nous des signes dans le ciel. Fais-nous voir, enfin, arrête de nous mener en bateau. Et qu'est-ce qui répond le Christ ? Il ne sera pas donné d'autres signes à cette génération que le signe de Jonas. Qu'est-ce que c'est le signe de Jonas? C'est Jonas qui est rentré dans le ventre de la baleine pour être sauvé. Il ne faut pas oublier ça. Parce qu'il est jeté à l'eau. Sur son insistance d'ailleurs, Jonas est jeté à l'eau. Et la baleine l'engloutit pour le sauver, parce que sinon il se serait noyé. Mais c'est 3 jours et 3 nuits, donc vous évidemment reconnaissez le mystère pascal, durée obscure dans laquelle il faut s'enfoncer, voilà, pour laisser Dieu conduire le dessein de nos vies. Il faut rentrer dans la durée obscure pour entrer dans le mystère de l'éternité de Dieu. C'est ça l'œuvre de conversion. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Hein, Marc 1, 15. Convertissez-vous, pourquoi convertissez-vous? Parce que le royaume de Dieu vient à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça qui fait toute la différence. C'est la conversion au plus profond de notre être. 3 jours et 3 nuits, c'est-à-dire, donc, je répète, le temps où se mûrit la vraie naissance, hein, la nouvelle naissance. Nous allons vers notre commencement, nous ne faisons que balbutier. Finalement, nous sommes là pour apprendre à commencer vraiment. Et il nous faut bien des multiples commencements dans nos vies pour apprendre à commencer vraiment, c'est-à-dire faire en sorte que le Seigneur nous retrouve dans son archet, dirait Saint Jean, dans son origine fondatrice, commencer un commencement d'éternité. Ça, c'est une aventure dont on ne possède pas la clé. Il faut donc réhabiliter ce temps qui passe, le grain doit mourir pour porter du fruit. C'est l'image de l'évangile. Maturation. C'est le temps de la maturation. Et quand le temps passe, nous sommes invités à redevenir ces êtres chaque fois un peu plus et un peu mieux, qui sont comme l'enfant devant le Père, c'est-à-dire dans cette confiance que Dieu va commencer vraiment, enfin, avec nous, la vraie vie, la vie véritable, dit Saint Jean. La vie éternelle, c'est la même chose. La vie éternelle, c'est pas encore une fois la vie après la vie, c'est cette vie devenant vie éternelle. Et donc vous voyez combien, à l'opposé de toutes les rêves et les illusions d'immortalité, c'est vraiment nous faire entrer au cœur même de la condition humaine. Donc Jésus nous invite à cela, à passer, voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est passer du temps qui meurt au temps qui fait vivre. Or, nous sommes harcelés, c'est l'idéologie de notre temps, c'est le cas de le dire, nous sommes harcelés par une idéologie du temps mortifère. Le temps est vu négativement. Du temps qui meurt au temps qui fait vivre. À la nécessaire maturation qui fait vivre, tandis que le temps qui meurt, il s'en va vers le néant. Le temps, c'est un ami, le temps qui passe. C'est un ami. C'est le temps où on apprend à entrer dans la volonté du Père, dans le mystère du Christ. Donc Jésus détourne ses auditeurs de poursuivre des recherches, des signes et des voies de salut hors du temps. Exit les oracles, les conduites magiques, les illuminations soudaines. Il faut entrer dans la durée pour entrer dans l'éternité. Il faut rentrer dans la durée. Il faut vivre l'épreuve terrestre pour entrer dans la vraie promesse de Dieu. Il n'y a pas de retard à la parousie. Il n'y a qu'une maturation. La question, c'est pas théorique, vous le comprenez, elle est existentielle. Dieu, c'est pas celui qui résout nos problèmes, il est celui qui nous sauve de la mort. Il promet pas la résolution du mal, mais sa délivrance, c'est différent. Donc sortons de visions abstraites, théoriques, et finalement d'une vision abstraite du rapport au temps qui est celui de notre temps. Et je termine, ça va, je suis dans les temps, en guise de conclusion, devenir Eucharistie. Alors, qu'est-ce que ça me paraît bizarre, cette expression? Je fais référence à une expression qui est intraduisible, qui se trouve dans Colossiens 3, 15, qui, d'ailleurs, dont le mot ne se trouve que là, Eucharistoi, Eucharistos. C'est un qualificatif, mais en fait, c'est un. On appelle ça un adjectif substantivé, sa valeur de substantif. Le terme, lui, l'expression elle-même, c'est Eucharistoi gignesté. Devenez Eucharistie, ou soyez Eucharistier, quelque part. Soyez Eucharistier. Soyez Eucharistier. On le trouve, cette expression, on le trouve que là. Eucharistos, vous le trouvez que là. Par contre, Eucharistia, qui est le substantif qu'on emploie souvent, action de grâce, hein, l'action de grâce. Évidemment, c'est un thème surtout chez saint Paul, mais les évangiles aussi, mais surtout chez saint Paul, qu'on trouve très souvent. Mais ce terme-là, Eucharistos, excusez-moi de ces précisions sémantiques, vous ne le trouvez qu'à cet endroit. Et donc, il faudrait traduire « soyez Eucharistier ». Le problème, c'est que les traductions ne vous le laissent même pas percevoir, parce que vous, en général, c'est traduit ainsi « vivez dans l'action de grâce » ou « soyez reconnaissant ». Soyez reconnaissant, c'est un peu faiblard, c'est un peu... Mais le mot « Eucharistos », ce n'est pas pour rien. Dans l'idée de Eucharistos, il faut retrouver toujours le sens premier du mot, vous savez, qui est lié à la table. C'est lié à la bienveillance, c'est lié au bonheur d'être ensemble, c'est lié à la complémentarité, c'est lié à la relation harmonieuse, c'est lié à l'accueil, c'est lié à tout ce qui est de l'ordre d'une alliance. Hein. C'est le sens premier, même s'il n'est pas très employé dans le grec classique, mais surtout après, évidemment, dans le grec biblique, surtout le Nouveau Testament. Il y a ce sens premier, hein, de Eucharistie, faire Eucharistie, devenir Eucharistie, c'est au fond devenir un corps dans lequel nous sommes chacun heureux par la grâce des autres. Hein? Heureux là où on est par la grâce des autres. C'est communionnel, bien sûr, c'est pas pour rien que les premiers chrétiens ont choisi ce mot pour le situer au cœur de ce que nous appelons précisément l'Eucharistie. Alors je terminerai en vous redisant ce passage-là, qui me semble un peu résumer le propos que je viens de tenir. Colossiens 3, 12, 17. Et je vais utiliser la traduction que je viens d'employer. Soyez Eucharistiers. Hein. Vous donc, les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte, le Seigneur vous a pardonné. Faites de même à votre tour. Et puis, par-dessus tout, la charité, en laquelle se noue la perfection. Avec cela, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblés en un même corps. Enfin, soyez Eucharistiers, que la parole du Christ réside chez vous en abondance. Instruisez-vous en toute sagesse, par des admonitions réciproques, chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâce au Dieu Père. Amen.